Dutrisac.
S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Dutrisac.
Bon, Isabelle Huot est docteur en nutrition. Elle est avec nous. Madame Huot, bonjour.
Allô, Benoît.
Bon, hey, hier, Stéphanie a apporté du poisson à job, là. M'a dit, si tu veux te faire des amis, là, quand t'apportes ton lunch à job, apporte du bacon. Là, les gens vont sentir ça, puis ils vont dire, ah oui, ça sent bon. Mais du poisson, Isabelle, sacre à moule.
Mais c'était quoi? C'est du poisson, saumon-thon?
J'ai apporté de la morue.
Ah, mais de la morue, c'est mon poisson préféré. Bon. Tellement bon.
Merci, Isabelle.
Mais chez vous, pas au travail, s'il vous plaît.
Non, t'aimes pas trop le poisson, hein, toi?
Oui, j'adore le poisson.
Oui?
T'as plein de préjugés envers moi, là. C'est très laid, ça.
Corrige-moi, là.
Non, j'adore le poisson. Pas à la job.
Ah.
Pas dans un lunch.
C'est comme les œufs, hein. C'est tellement santé des œufs, mais c'est sûr que l'odeur, ça ne plaît pas à tout le monde.
Non, ça pue.
Mais moi, dans la consommation de poisson, ce qui me désole, Benoît, c'est de voir les statistiques. Parce que comme professionnel de la santé, ça fait quoi, 30 ans que je dis... Faudrait prendre du poisson 2 à 3 fois par semaine. Puis bravo Stéphanie, tu sembles le faire. Dans les dernières données de 2023, il y a seulement 27 % des Québécois qui vont consommer du poisson toutes les semaines. 39 % quelques fois par mois, là, 1 à 2 fois par mois. Et 33 % à l'occasion. Si on regarde du côté de la Colombie-Britannique, ben là, la consommation, elle est beaucoup plus fréquente. 45 % de la population. Je pensais que c'était plus. Je m'attendais à plus quand même. 45 % toutes les semaines, 32 % quelques fois par mois et 2 % qui consomment du poisson tous les jours. On sait qu'il y a une grande communauté asiatique, notamment du côté de Vancouver, là, où manger du poisson le matin là pour être allé au Japon, c'est pas mal ça qu'on avait au petit déjeuner, là, d'avoir du thon, du saumon le matin. Donc, ça fait partie des habitudes là-bas. Mais bref, on rencontre pas les recommandations. Puis c'est bien dommage parce qu'il y a tellement de bienfaits pour la santé.
Ouais, mais as-tu vu le prix du saumon, toi, dernièrement?
Oui.
Pour aider les gens là, à consommer du poisson.
Oui, et j'ai été étonnée de voir les statistiques de consommation malgré l'inflation, parce que on est quand même en hausse la consommation. Là, j'ai pas les chiffres 2023, 2024, ça va jusqu'à 2022, mais il y a eu une augmentation de la consommation de poissons entre 2021 et 2022. Donc, les gens en consomment quand même plus. C'est sûr qu'il y a des façons plus économiques d'en consommer. Le poisson en conserve, par exemple, le thon en conserve. On s'entend que c'est souvent un produit qu'on va trouver autour de 99 sous. Puis, 5 bonnes raisons d'en manger.
Non, ça fait longtemps que tu n'es pas allé magasiner, là, Isabelle. C'est plus 99 sous, là, le thon en boîte. Le thon en boîte?
1,29. Entre 90... Bien, ça dépend en marque maison. C'est-tu un 85 grammes ou c'est un 220 grammes?
Moi, je pense que c'est une dégustation chez Costco, ton affaire. Hein, parce que,
on va dire... Oui, c'est ça, mais il y en a de temps en temps. Il y en a chez Dolorama aussi. Hein?
C'est vrai.
Oubliez qu'il y en a chez Dolorama.
Hey, j'ai une question niaiseuse pour toi, Isabelle. Oui. J'ai une question niaiseuse. Mais niaiseuse, là, je t'avertis, elle est vraiment niaiseuse. Comment ils font pour garder du poisson en conserve qui est quand même comestible après des mois?
Ah, écoute, ça, c'est un principe qu'on appelle l'apertisation. Donc, quand tu mets en conserve, tu tues, tu as un traitement à la chaleur intense, un petit peu comme pasteurisé. Donc, ça protège pendant des mois et des mois les aliments. Évidemment, c'est à l'abri de la lumière, à l'abri de l'oxygène. Donc, la façon que c'est conservé, là, tu as un pot de saumon, de thon, tu peux manger ça, je pense, pendant 10 ans, à moins que le canage soit bombé. Mais c'est une technique qui est utilisée de conservation qui est utilisée depuis tellement longtemps. Fait qu'il n'y a pas à craindre de ça. C'est sûr qu'il y a plus de sel, tu sais, qui est un agent de conservation aussi. Les produits qui sont souvent saumurés, donc conservés dans une eau qui est un petit peu salée. 5 raisons de manger du poisson. C'est riche en protéines. C'est faible en gras saturé. C'est riche en oméga-3, qui sont les bons gras qu'on va retrouver dans le poisson, qui ont des vertus incroyable à plusieurs niveaux. Au niveau santé cardiovasculaire, au niveau de la longévité, au niveau de la dépression, au niveau des fonctions cognitives, au niveau aussi des vertus anti-inflammatoire. Donc, à partir du moment où on a une condition inflammatoire, soit une maladie inflammatoire de l'intestin, une colite ulcéreuse, de l'arthrite rhumatoïde, ou même de l'inflammation de bas grade qu'on va retrouver notamment en présence d'obésité, de diabète de type 2, consommer davantage de poissons, c'est vraiment conseillé. Et c'est aussi un des seuls aliments qui apporte la vitamine D. Et vitamine D, on en a besoin pour plein de raisons, la santé des os, le système immunitaire, le moral également. Puis là, j'ai trouvé une belle étude pour toi, l'Université Harvard, qui ont démontré que les personnes qui avaient dans le sang des plus hauts taux d'acide gras oméga-3 avaient une longévité de 2 ans supplémentaire. Donc, au lieu de vivre, mettons, jusqu'à 90 ans, si tu manges du poisson régulièrement, tu pourrais vivre jusqu'à 92 ans. Et les plus grands consommateurs de poissons réduisaient le risque de mortalité toute cause de 27 % et de risque de mortalité relié aux maladies cardiovasculaires et aux AVC de 35 %. C'est quand même des passifs significatifs. Puis récemment, on s'est rendu compte que les grands consommateurs de poissons avaient moins de dépression, de meilleure santé mentale. Et c'est là qu'on a commencé à s'attarder aux vertus des acides gras à chaîne longue sur la dépression postpartum, la dépression saisonnière, les dépressions légères à modérées. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle efficacité. Donc, de manger du poisson ou voire de prendre un supplément d'huile de poisson là, vendu dans toutes les pharmacies.
Oui, mais il y a l'inquiétude du mercure aussi. Hein?
Oui, oui. Mais là, Santé Canada donne des recommandations. Les poissons les plus contaminés en mercure, c'est les poissons prédateurs, les plus gros poissons. Le requin, genre. Mais on s'entend-tu qu'on ne mange pas du requin souvent? Non. Moi, je pense que j'ai mangé ça une fois dans ma vie. Je ne sais pas toi.
Ouais, je pense que oui, dans le Chinatown. Dans le quartier chinois, j'ai osé.
Oui.
T'en gardes pas un grand souvenir. Je sais pas.
Non, c'est ça.
Mon souvenir. Pas.
Le requin, l'espadon, le marlin, l'escolier, c'est des poissons qu'on consomme très, très peu. C'est les plus contaminés au méthylmercure qui peut être neurotoxique. Donc, ces poissons-là. Et pour le reste, si je te dis ton blanc conserve ou ton pâle, lequel est le plus contaminé au mercure?
Ton blanc.
Ah, bravo. Ouais, c'est ça, c'est bon. Ton blanc?
Je le sens chanceux. Je suis tombé dessus. C'est tout.
Le thon blanc a plus d'oméga-3, mais plus de mercure. Puis c'est souvent le cas quand on regarde des poissons d'élevage versus sauvages.
Ah oui.
À partir du moment où on a plus de gras comme le thon blanc, ben il y a plus de mercure aussi. Fait qu'il y a des limites qui sont imposées, notamment les femmes enceintes allaitantes, pas plus que 300 grammes par mois. Et puis pour les enfants de 1 à 11 ans, il y a des limites qui sont émises là pour le thon blanc aussi, pour des gens qui sont particulièrement fragiles au mercure, des personnes âgées, des personnes sous dialyse, etc., là, qui ont la santé plus fragile. Mais en général, la recommandation, Benoît, c'est vraiment de varier parce qu'en variant les poissons comme de la morue, de la truite, on s'expose moins au méthylmercure. Puis les sardines, le maquereau, c'est des poissons qui sont super aussi, qui ont beaucoup d'oméga-3 et très, très peu de mercure. Fait que ça serait des espèces à privilégier qu'on consomme trop peu. Là.
OK. Avant qu'on se quitte, Isabelle, deuxième question niaiseuse. Je pense que c'est un record. Quand tu parles de poissons, là, est-ce que tu parles même de fish and chip, de poisson dans la friture, puis de, tu sais?
Mm-hmm. C'est la façon la préférée des Québécois pour consommer le poisson. C'est les poissons surgelés qui se vendent dans les boîtes toutes faites, là, avec la grosse panure. Okay? Mm-hmm. Oui, on a quand même des bons gras, mais souvent, quand on regarde dans les ingrédients de la panure, ben, des fois, on y a des huiles hydrogénées, des ingrédients pas si santé que ça. Fait que panure maison, tu sais, une panure panko, un petit peu à la japonaise. Ou moi, j'aime beaucoup en croûte de noix, pistache, par exemple, concassé. Là, on peut avoir des panures vraiment, vraiment santé. Puis ceux et celles qui n'aiment pas le goût de poisson, d'y aller avec des poissons qui goûtent très, très délicats, là, comme au goût genre filet de sole, aigle fin, ça goûte pas vraiment le poisson, ça goûte presque le poulet, fait que c'est une bonne façon pour introduire le poisson. Ou les croquettes, évidemment, pour des enfants, mais encore là, on y va avec des ingrédients santé, du poisson en croquette, une croquette de thon avec des cornichons dedans, ou une petite sauce de type tzatziki, ou ça peut être super bon aussi, puis une façon d'introduire le poisson, mais c'est okay. Ça, fish and chip,
ça suffit.
En Angleterre, c'est un must.
J'ai faim, là. Arrête. Là. J'ai hâte d'avoir des images. Isabelle Huat, merci. À la semaine prochaine.
Merci.
Salut.
À la semaine prochaine.